Radio Alliance Plus. Parole aux associations.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Parole aux associations. C'est Didier au micro. Vous nous écoutez sur 103.2 en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr et en podcast. Aujourd'hui, je reçois l'association Cuba Coopération France. Et j'ai à côté de moi Liliane Tobenhaus, qui en est sa secrétaire générale. Bonjour Liliane.
Bonjour Didier.
Alors, cette association, on n'a pas l'habitude d'entendre ici une association cubaine. Donc, c'est l'association pour le rapprochement contre les peuples France-Cuba. Alors, expliquez-nous cette action.
Alors, cette association, elle a été créée il y a 28 ans par un monsieur qui s'appelle Roger Gréville et qui est animois d'origine. C'est effectivement pour un rapprochement entre les peuples français et cubains. Et c'est devenu une grande association de coopération avec Cuba.
Alors, il y a une population cubaine à Nîmes ?
Non, il y en a. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a dans la région, il y en a en Occitanie.
Alors, pourquoi à Nîmes un rapprochement entre la France et Cuba, alors ?
En fait, il a été créé 18, bientôt 20 comités à travers toute la France.
D'accord.
Donc, le comité gardois a été créé il y a une douzaine d'années pour pouvoir réaliser des projets de coopération, pour pouvoir aider Cuba. Dans la situation actuelle où ils sont, c'est une catastrophe. Ils ont vraiment besoin de notre aide.
Alors, vous êtes rattaché à l'association nationale, c'est ça ?
Tout à fait.
Qui est parisienne, j'imagine ?
Dans la région parisienne, oui, à Ivry-sur-Seine.
Et en dehors du comité gardois, sur le territoire français, il y a d'autres associations ?
Il y en a 18 comités. Parce qu'on est tous chapeautés par la région parisienne, mais 18 associations. En Occitanie, on est 3. Il y a les Pyrénées-Orientales, il y a l'Hérault et le Gard. Mais vous en avez sur Marseille, vous en avez sur Lille, en Bretagne, en Savoie, il y en a un petit peu partout.
Mais vous vous occupez que du Gard, on est bien d'accord.
Exactement.
Sur tout le territoire. Alors.
Je m'occupe du Gard, mais on mutualise des projets avec d'autres comités sur l'Occitanie.
Alors vous avez une structure juridique, une association loi de 1901, vous êtes
tout
autonome.
On est autonome, loi 1901, mais on dépend quand même de la structure nationale.
Donc on rappelle qu'elle a été créée en 1995, c'est ça ?
Non, 96. Ou 15, oui, exact.
C'est ce que vous m'avez
dit. J'ai eu un doute sur une année.
C'est pas grave. Donc, effectivement, la loi de 1901, donc structure, bureau, conseil d'administration, donc vous prenez des décisions en bureau, comment ça se passe ?
Alors, il y a des issues qui sont prises au bureau, on a une réunion la semaine prochaine, pour tous les projets et toutes les actions qu'on va mener au niveau du Gard.
D'accord.
Par contre, il y a un conseil d'administration au niveau national, dont fait partie chaque secrétaire de comité.
D'accord.
Et une direction générale qui prend aussi les décisions.
Donc il y a un programme d'action qui est décidé par le national, c'est ça ?
Alors il n'est pas décidé seulement par le national, excusez-moi, j'ai plus de voix ce matin.
Ah. Pour la radio, c'est gênant.
Oui, il est décidé en collaboration avec nos amis cubains.
D'accord. Ok. Et il y a des Cubains qui participent aussi à ce type d'action ?
Oui, bien sûr, il y en a, oui.
En fait, pour les demandes, j'imagine ?
Alors, les demandes, c'est-à-dire que c'est des accords de convention que nous avons avec Cuba,
d'accord,
notamment avec la ville de Cienfuegos, la ville de La Havane, mais ça peut être à Santiago et ailleurs, hein, ça se fait également. Hein.
Oui.
Donc, il y a des accords gouvernementaux qui sont faits, et c'est eux qui nous disent, voilà, on a besoin de travailler sur tel et tel projet.
D'accord. Alors, on va parler donc du bureau, des décisions. Au niveau du local, vous avez une implantation sur Nîmes ?
On n'a pas de local. On a une adresse parce que ça, c'est nécessaire
c'est
pour créer l'association, donc sur Nîmes, mais il n'y a pas vraiment de bureau.
Donc, alors, si on veut vous joindre, on vous joint par téléphone ou par mail. Donc, en fait, c'est Cuba Coopération France. Vous pouvez les joindre au 06 61 13 77 61, on tombe sur vous, je pense, non ?
C'est exact.
Voilà. Ou sinon, par mail, liliane.tobenhaus, T-A-U-B-E-N-H-A-U-S, @gmail.com. C'est exact ?
C'est exact.
Alors, maintenant, parlons des bénévoles, puisqu'il faut bien quand même avoir de l'humain, des personnes qui s'occupent de cette association. Alors,
tout
parlez-nous un peu de vos bénévoles.
Alors, de toute façon, partout, ce ne sont que des bénévoles. Il n'y a pas de personne salariée.
Il n'y a pas de salariés, d'accord.
Non, pas du tout. Nous sommes tous des bénévoles. Au niveau du comité gardois, nous sommes une quarantaine. Il y a des comités un peu plus, un peu moins, suivant les structures et suivant les aides qu'on peut avoir. Parce qu'il y a tellement d'associations, il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs casquettes, donc c'est un peu compliqué. Mais nous sommes une quarantaine de bénévoles, notamment, on va dire, une dizaine sur le terrain.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement, vos bénévoles ?
Ils aident sur les initiatives, c'est-à-dire qu'on va être présent sur des initiatives qui sont faites comme le Forum des associations.
Oui, d'accord.
Et un peu dans toutes les villes du Gard. Ils vont venir nous donner un coup de main si on va organiser un repas. On va organiser, on va en parler tout à l'heure, de la semaine du cinéma cubain. Mmh. Il va y avoir du personnel sur le terrain. Parce d'accord. qu'il faut des aides. Il va y avoir un stand, il va y avoir pas mal de choses à tenir.
Alors parlons maintenant du financement. J'imagine que pour vivre, faire vivre une association, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc vous avez un financement particulier. Comment ça fonctionne ?
Alors je vais parler pour le comité gardois pour l'instant.
Bien sûr.
Au comité gardois, ce sont les adhésions. C'est tout. Après, on va à la pêche. Donc, on va aller chercher les financements suivant les activités qu'on veut faire, suivant les projets qu'on veut financer, suivant les initiatives, mais on va aller chercher l'argent un peu partout.
D'accord, alors si je comprends bien, le financement, il est ponctuel. Parce que quand on s'était rencontrés, vous m'aviez parlé de containers, c'est ça ?
Tout à
vous
m'avez
expliqué un peu en quoi ça consiste et comment c'est financé ?
Alors en 2021, le Gard a envoyé un container de matériel médical de 40 mètres cubes. On n'a pas, là je fais un appel, on cherche un local pour stocker ce matériel. Donc à l'époque...
De manière temporaire, j'imagine.
Systématiquement, oui, à chaque fois qu'on fait une opération de ce genre. Ce qu'on voudrait faire, puisqu'on nous a déjà proposé pas mal de matériel. À l'époque, il a fallu louer. Hmm. On a loué un box, en fait. Ça nous a coûté très cher. Après, il a fallu financer, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on avait payé 4 000 euros. Aujourd'hui, l'envoi d'un conteneur, c'est 8 000 euros. Mmh. Donc, on a fait par des associations, par Eloasso, j'ai lancé des appels à travers les médias et le bouche à oreille, tout simplement.
Alors, qu'est-ce que vous émettez dans ces conteneurs ?
Que du matériel médical. Attention, on a en France interdiction d'y mettre des médicaments, alors qu'ils n'en ont pas, ils n'en ont plus aujourd'hui.
Et on ne pouvait pas... Donc, le matériel médical, c'est quoi ? Ce sont des sociétés qui vous les donnent ?
Oui, il y a des sociétés. Il peut y avoir des hôpitaux. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'ouverture. Il y a des personnels médicaux, des infirmières, des kinés. Il y a des maisons, comment on appelle ça, pour les anciens, qui nous ont donné du matériel. Il y a des particuliers, beaucoup de particuliers qui sont venus nous rencontrer pour nous donner du matériel neuf. Mais personne ne veut les leur reprendre parce qu'un professionnel qui va reprendre du matériel, même neuf, au lieu d'en acheter, va perdre toute subvention.
Ah oui, donc vous bénéficiez un peu de cette...
C'est une catastrophe.
Oui. Et au niveau, vous me parliez de lits d'hôpitaux, vous pouvez les récupérer parce qu'ils ont une durée de vie, pas forcément en fonction de l'état, mais parce de l'état du matériel, mais parce que les hôpitaux sont obligés de changer les lits régulièrement. Donc vous bénéficiez à ce moment-là de la récupération de ce matériel ?
Exact. C'est-à-dire que les hôpitaux sont dans l'obligation, toujours pour les émetteurs de subventions, de changer les lits tous les 5 ans. Donc ils sont propres, ils sont désinfectés, parce qu'on n'en voit pas quand même du matériel abîmé. On a également, au niveau des adhérents, on a un médecin, des médecins d'ailleurs, également qui nous aident, qui nous amènent du matériel. Ça va être du lit, ça va être du matériel un peu plus sophistiqué, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les médecins cubains n'ont même plus une paire de gants pour travailler. Il n'y a plus de sondes, il n'y a plus de cathéter.
Oui.
Ils n'ont plus rien pour travailler.
Alors, quand vous récupérez ce matériel, vous constituez un conteneur, alors, c'est ça ?
Oui.
Par exemple, tous ces lits, il faut les mettre dans un conteneur, non ?
Il faut stocker.
Il faut stocker.
Il faut stocker. Non, le conteneur, on ne peut pas l'avoir avant. Le conteneur, il va venir le jour où on le remplit et où il part.
Oui, parce que sinon, il y a un coût financier qui est prohibitif, j'imagine.
Tout à fait. Déjà, à l'époque, on avait eu un tarif préférentiel, mais ça nous coûtait quand même 180 euros par mois.
Alors, dites donc, quand vous envoyez ce matériel, il n'y a pas un embargo entre... Enfin, parlez-nous un peu des relations avec, avec Cuba, qui ne sont peut-être pas aussi simples que ça.
Non, mais ce n'est pas Cuba qui pose problème. Ce sont les autres. D'accord. Effectivement, il y a un blocus depuis plus de 62 ans.
C'est historique avec les USA, vous voulez dire.
Tout à fait.
Et là, ça date de la baie des cochons, 1962.
Vous connaissez bien l'histoire, c'est exactement ça. Et donc, il s'avère que ça s'est intensifié. Le président Trump, à l'époque, a signé une loi d'extraterritorialité, la loi Amberton III, qui faisait partie des textes du blocus, mais qui n'avait jamais été mise en application. Il l'a fait le 2 mai 2019 et il a rajouté 243 lois assassines contre Cuba.
Alors je vous propose de parler de ça un peu plus en détail dans la deuxième partie d'émission. D'accord. Parce que le temps passe et il est usuellement d'écouter un morceau musical. Et vous avez choisi un morceau musical qui s'appelle Compay Segundo, Chan Chan. Compay Segundo, c'était Buena Vista Social Club, ce fameux orchestre cubain avec ses papis qui se sont réunis et dont malheureusement il n'y a plus beaucoup de survivants. Alors, pourquoi ce choix ?
Alors, le choix, il était difficile quand vous m'aviez posé la question, parce que dans ma tête, j'avais un des plus grands musiciens pour moi qui s'appelle Benny Moré. Oui. C'était beaucoup plus compliqué à faire passer. Et pourquoi Compay ? Compay, il représente le peuple cubain. Oui. Hein, il a été rouleur de tabac, il a fait beaucoup de choses dans ce domaine. Compay...
Oui, c'est vrai que c'est la Havane de la rue.
On va dire ça comme ça, même s'il n'était pas de la Havane, il était vraiment dans la campagne, à plus de 400 km, 500 km de la Havane. Élevé par sa grand-mère, il lui allumait les cigares, et après son décès, il allait les mettre sur sa tombe. Et aussi, pourquoi Compay ? Compay, il a été, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle la son musique, qu'on appelle pour les touristes la salsa, et il a créé la guitare qui correspondait à cette musique. Et j'ai eu l'opportunité et la chance d'aller le voir sur scène à l'Olympia à Paris.
Oui, moi je l'avais vu au Théâtre des Champs-Élysées, je crois, les belles époques. Il s'est produit partout, c'est Buena Vista Social Club, New York, Metropolitan,
etc. Non, là, tout à fait, complètement.
C'est incroyable pour des Cubains qui étaient, comme vous dites, au milieu de leur champ, en roulant les tabacs sur les femmes, les roulaient sur leurs cuisses, c'est ça ou...
Plus ou moins. Non, c'est pas tout à fait ça.
Mais... Non, mais c'est la légende, c'est pour les touristes.
Oui, ça c'est une légende. Eh bien... C'est un Américain d'ailleurs qui les a retrouvés.
Oui. On écoute Compay Segundo, Chan Chan, et on se retrouve après.
Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como un sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Et bien après cette pause musicale, je vous rappelle, c'était Compay Segundo Chan Chan. J'espère que ça vous a plu. Et nous reprenons le fil de notre émission. Je vous rappelle que vous êtes sur Parole aux associations, sur Radio Alliance Plus, et je reçois l'association Cuba Coopération France, où j'ai à côté de moi Liliane, qui en est la secrétaire générale. Alors Liliane, on va parler maintenant un peu de la situation à Cuba, et c'est pas facile pour cette association, vu le climat politique qui perdure, d'apporter du matériel et votre aide.
Alors c'est très très compliqué, parce que je vous disais qu'il y a eu cette loi d'extraterritorialité, mais il y a eu aussi 243 lois assassines qui ont été ajoutées, et on a mis Cuba sur la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme. Biden l'a remis dessus. Ça pose énormément...
Ça facilite pas les choses.
C'est clair, et notamment au niveau du tourisme. Il faut savoir que le tourisme, c'est un des revenus essentiels à Cuba, ce qui permet quand même d'avoir une éducation gratuite, la santé gratuite et un niveau culturel assez important. Je sais que tous les ans, et cette année encore le 1er de novembre, il va y avoir une résolution de Cuba auprès de l'ONU pour supprimer ce blocus. Comme d'habitude, ça va être non à la plus grande majorité.
Bien sûr, oui.
Mais de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose.
Alors, votre association fait partie d'un mouvement, si je puis dire, qui s'appelle Cuba Vive, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Qui résiste, pas du tout ça ? Non. C'était pour résister, justement, et pour demander une campagne du retrait de Cuba de la liste des pays. Vous n'êtes fait pas partie de...
Si, alors ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qu'on a créé avec d'autres associations de solidarité cubaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte au niveau européen.
D'accord.
Parce qu'avec cette loi d'extraterritorialité, oui, et le fait que Cuba soit sur cette liste noire, fait que les banques sont frileuses et nous rejettent. Et ce qui fait également qu'on a du mal à travailler et demander de l'aide et de financement par les entreprises.
Donc ce combat, c'est pour retirer ces lois extraterritoriales pour pouvoir vous permettre d'apporter une aide efficace, c'est ça ? Et puis surtout de lever un blocus, un peu un embargo financier, non ?
Oui, mais il faut savoir qu'en 1996, l'Europe avait voté une loi qui disait pas d'ingérence américaine sur le territoire européen. Or, comme beaucoup de lois, elle n'a jamais été mise en application. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse.
D'accord. Et effectivement, ce n'est pas pratique. Alors, parlons maintenant de votre action sur le GAR, l'action spécifique, et comment vous pouvez aider Cuba à partir avec des gardois et la solidarité gardoise.
Alors, la solidarité gardoise et la solidarité, même à travers la France pour tous les comités, ça va être au travers de pas mal d'initiatives pour récupérer des fonds. Mais il y a beaucoup de projets et on va mutualiser des projets, notamment ce projet qui me tient particulièrement à cœur et notamment un gros projet qui est mené par le GAR, c'est autour de l'autisme.
Alors justement, parlons-en, oui, parce qu'on parlera des autres projets après. En quoi ça consiste, ce projet autiste ?
Alors ce projet, il a été démarré en 2021 avec le financement de Cuba Coopération, du Secours Populaire et des Métallurgistes de France, qui a permis la reconstruction d'une autre école pour autistes, l'école Vilma Espín, qui est à Cienfuegos, que je suis allée voir. Aujourd'hui, on a reçu en octobre 2022 dans le GAR une délégation cubaine avec la directrice de cette école, la représentante gouvernementale de la province. C'était une rencontre, un échange pour savoir comment les professionnels français travaillaient par rapport aux professionnels cubains. Tout ça avec l'aide d'une association dont la présidente est Chantal Lair-Lachapelle, qui est une élue de Vauvert sur le handicap.
D'accord.
Présidente d'une association. Donc je n'ai pas le nom parce que elle a changé
le
nom.
C'est une école qui a été créée à votre initiative, à l'initiative de ce partenariat que vous évoquiez ?
Non, l'école, elle a été créée il y a pas mal d'années.
D'accord.
Par Cuba. Il y en a 8 ou 9 aujourd'hui à Cuba.
C'est privé, c'est une école d'État ?
Pas du tout. Il n'y a pas d'école privée, oui, c'est financé par l'État. La grosse différence qu'il y a entre les deux, en fait, c'est le professionnalisme. Ils ont un professionnalisme, c'est dur à dire ce matin, extraordinaire comme dans tous les domaines.
Oui.
Par contre, sans argent, sans matériel, ce qui est tout à fait le contraire ici, et c'est le gros problème. Et nous avons une rencontre d'abord au mois de novembre pour mettre en place la phase 2 de ce projet, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange de professionnels, un gros travail qui va être fait également avec les familles.
Donc l'apport gardois, c'est un échange de professionnels médicaux sur sur l'autisme.
Sur l'autisme, je ne dirais pas la maladie, sur l'autisme. Je ne mettrais pas l'autisme dans la maladie, parce que de toute façon, eux, la santé rentre comme vous et moi, une grippe, un bobo et tout ça. Ça n'a absolument rien à voir.
D'accord.
Mais il y a un gros, gros professionnalisme, alors qu'ici, c'est très, très compliqué pour les parents.
D'accord. Alors, vous parliez de santé maintenant, c'est aussi un deuxième projet de votre association, c'est le projet santé. Parlez-nous un peu de ce projet au niveau matériel, au niveau transport, j'ai cru comprendre.
Alors, bon, c'est trop facile en France, malheureusement, de récupérer du matériel. Par ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire l'obligation de changer le matériel régulièrement pour obtenir des subventions. Donc nous récupérons ce matériel, donc la demande d'un local, si on pouvait trouver quelqu'un qui mette à notre disposition un local pour stocker ce matériel. Après, il faut savoir que pour envoyer un conteneur, c'est 8000 euros aujourd'hui. Donc il faut en trouver le financement. Donc c'est toujours pareil, on fait appel à tous les partenariats, tous les gens qui peuvent nous aider financièrement. Aux entreprises, pourquoi pas?
Bien sûr.
Qui peuvent venir à notre rencontre.
Écoutez, l'appel est lancé. Hein, si sur cette antenne, les entreprises se sentent capables de proposer leurs services pour alimenter ces conteneurs. Alors aussi, j'ai l'impression que vous avez des problèmes aussi au niveau du transport, pour transporter ce matériel, enfin ce conteneur, à Cuba. C'est très compliqué.
C'est
par la voie maritime, évidemment.
Tout à fait, tout à fait. Ça a été très compliqué, surtout en 2021, où pendant 6 mois, on m'a dit que Cuba n'est pas une urgence.
Oui, voilà. Oui.
Voilà.
Et donc, comment il transite? Vous m'aviez expliqué que c'était plusieurs jours, plusieurs mois, non, peut-être pas.
C'est toujours très long. Ça peut être un mois, c'est un peu plus court aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on envoie une liste de donations à Cuba, qui nous envoie un certificat d'importation en nous disant... Voilà, c'est tel hôpital, par exemple, qui accepte votre donation. Et là, on peut mettre... Mais à partir du moment où on a stocké tout le matériel, on ne peut pas le faire avant. À partir de là, on va enclencher la partie administrative, on va dire, avec la compagnie maritime.
D'accord.
Là, ça peut aller très vite.
Alors, ça part d'où? Du port du Havre, non?
Ça part du Havre pour les comités qui sont dans le nord. Pour nous, ça va partir de Fos.
Oula, alors ça transite par le détroit de Gibraltar, alors?
Ça fait un délai
beaucoup plus long. Alors que...
Exactement. Mais la compagnie maritime, elle est pour nous à Marseille.
D'accord.
C'est la plus grande.
Donc c'est un Marseille-La Havane, c'est ça?
C'est un Marseille-La Havane via certains autres pays, parce que le bateau, il n'a pas un seul conteneur. Donc ça peut passer par le Panama, ça peut passer par le Mexique.
Oui, c'est ça, en fonction de... Oui, bah dites donc que le matériel, il ne va pas rapidement sur place, apparemment.
Non, c'est très long.
Alors après ce projet santé, ce projet autisme, j'ai remarqué que vous aviez un autre projet, l'eau et assainissement. Alors parlez-nous un peu de ce projet qui est important dans ces pays-là, parce que j'imagine que l'eau et l'assainissement n'est pas...
C'est une catastrophe.
Oui.
Mais on travaille déjà depuis près de 20 ans sur ce projet, avec un collectif de professionnels de l'eau et l'assainissement, notamment l'ancien directeur de la voirie de Paris. Et bon, aujourd'hui, on manque de finances, mais on a mis en place un autre projet à l'intérieur de ce gros projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire venir deux professionnels, deux ingénieurs cubains, pendant 15 jours, de formation et d'échange avec des professionnels français. Donc pour cela, il me faut des professionnels, notamment les agglos. Donc, j'ouvre encore.
Alors, c'était des qui viendraient se former, comment...
Il y a une formation sur le travail qui est fait par les Français et par rapport à ce qui se fait à Cuba.
J'imagine que ces ingénieurs, ils sont déjà formés à Cuba. Donc, ce sont des volontaires qui viennent
Non, on fait venir, c'est en général souvent des ingénieurs de haut niveau qui viennent.
D'accord.
Ça a déjà été fait.
C'est eux qui s'occupent du réseau de l'eau et de l'assainissement à Cuba?
Oui, tout à fait. Et ça a déjà été fait dans le Grand Angoulême, qui les a reçus. Par contre, ce sont les collectivités, bien entendu, qui payent. Il y a eu un appel à projet, c'est eux qui financent. Alors maintenant, ils veulent recommencer.
Ce sont des fonctionnaires cubains, j'imagine.
Oui,
non,
tout à fait.
Et l'État cubain autorise donc cette...
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Okay. Mais ce sont des conventions qu'on a avec l'État cubain, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'eau, sur d'autres domaines. Mmh. C'est toujours des conventions qui sont signées entre Cuba Coopération et les responsables cubains dans ce domaine.
D'accord. Et vous, dans Cuba Coopération, vous avez donc un partenariat avec du personnel effectivement qualifié par les collectivités locales, c'est ça, gardoises, qui permettent ces formations à ces ingénieurs cubains.
Alors pour l'instant, on n'a pas de partenariat. Moi, je fais appel justement à l'agglo de Nîmes, à l'agglo d'Alès. J'ai déjà, pour la partie de l'eau, le maire de Domessargues, qui mm-hmm. est président du syndicat de l'eau.
D'accord.
Lui, il est déjà d'accord pour participer au projet. D'accord. Maintenant, je tape aux portes.
D'accord, d'accord. Donc, c'est en gestation.
Tout à fait.
OK. Alors, après ces trois projets, maintenant, on va parler, avant de terminer, de la semaine du cinéma cubain. Alors là, c'est plutôt la culture.
Voilà. Bon, la culture, il faut savoir qu'il y a un panier culturel qui est impressionnant à Cuba. D'ailleurs, à Cuba, on aimerait bien même faire des expositions sur Nîmes. Et donc, la semaine du cinéma cubain démarrera le 2 février au Cinéplanète à Alès.
Alors, en 2024, hein.
Exactement. Oui. Et mon cerveau est déjà en avance. Et donc là, on est en train de travailler dessus, il va y avoir des films cubains, notamment des films qu'on ne peut pas trouver en France. On les achète auprès de l'ICAI, qui est l'organisme cubain du cinéma. On travaille beaucoup avec eux. Il va y avoir des documentaires, il va y avoir des débats, il va y avoir des expositions, et il va y avoir également des officiels qui vont venir, notamment de l'ambassade de Cuba. On travaille en partenariat également avec l'ambassadrice auprès de l'UNESCO. Il va y avoir pas mal de monde.
Alors, tout un programme. Alors, je rappelle que ce sera à Alès,
oui,
et au Ciné Planète, c'est ça?
Tout à fait, en partenariat avec le directeur Simon Barrier.
Eh bien, Liliane, merci. Je vous rappelle que vous êtes la secrétaire générale de Cuba Coopération France, que vous pouvez les joindre au 06 61 13 77 61. Vous pouvez également aller sur le site cubacoop.org et que vous pouvez les joindre sur ces sites. Je rappelle, cubacoop, à tout attaché. .org. Merci Liliane.
Merci.
Et à bientôt à nos éditeurs.
Merci pour votre accueil.
Soutenez notre association. Faites un don déductible d'impôts sur radioalliance+.fr.